Ce matin, j'aimerais commencer par une question qui va peut-être vous surprendre. Vous surprendre parce qu'elle est, je pense, plutôt inhabituelle. Vous surprendre car vous allez peut-être considérer qu'elle est osée. Mais de quoi je me mêle, penserez-vous peut-être ? Vous surprendre peut-être aussi parce que vous ne vous l'êtes jamais posé. Quelle est cette question ? C'est la suivante. Est-ce que votre cœur est pur ? Est-ce que votre cœur est pur ? Si cette question est certainement inhabituelle, elle est surtout fondamentale, essentielle. Peut-être parmi les questions les plus importantes auxquelles vous aurez à répondre de toute votre vie. Pourquoi ? Pourquoi est-ce une question aussi essentielle, vitale, fondamentale ? Parce que ce sont ceux qui ont le cœur pur, dit Jésus, qui verront Dieu. Ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Dans notre série sur les béatitudes, dans l'évangile de Matthieu, nous arrivons ce matin. Je ferai un petit signe et tu passes au fur et à mesure. Merci. Reviens en arrière, s'il te plaît. Juste la diapo. Voilà, merci. Donc, dans notre série sur les béatitudes de Jésus dans l'évangile de Matthieu, nous arrivons à la sixième sur huit béatitudes, où effectivement Jésus déclare heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Peut-être êtes-vous en train de vous dire, comme je l'ai pensé moi-même, que vous avez un problème. Pourquoi ? Parce qu'à moins de s'illusionner complètement sur soi, nous savons tous que notre cœur n'est pas entièrement pur. Ce constat, comme nous le verrons plus tard, est d'ailleurs confirmé par les Écritures. Si toutes les béatitudes nous interpellent, celle de ce matin le fait peut-être un peu plus que les autres. Pourquoi ? Parce que si notre cœur n'est pas pur et, comprenez par là, entièrement pur, nous ne verrons pas Dieu. On peut mettre la diapo suivante. Après ces quelques mots d'introduction, passons au deuxième point sur le cœur, qui se trouve être le cœur du message. Et pour bien comprendre ce que Jésus dit ici dans cette béatitude, il faut tout d'abord comprendre de quoi nous parlons. Qu'est-ce que le cœur ? Et puis, nous précisons d'abord les choses d'un point de vue biblique. Dans la pensée biblique, c'est quoi le cœur ? Dans la vie de tous les jours, pour nos contemporains, le cœur, c'est le siège des émotions, c'est le siège des sentiments. Le cœur est devenu le symbole universel de l'amour et il représente plusieurs choses associées à l'amour, la générosité, le partage, la franchise, le courage ou encore la passion. Et c'est parce que nous percevons dans notre cœur les passions du corps qui se manifestent par une modification et une conscience accrue de notre rythme cardiaque que nous en avons fait le siège incontesté des émotions et des sentiments. On a déjà tous eu le cœur qui s'emballe. Dans la Bible, le cœur, cependant, c'est beaucoup plus que cela. C'est le centre de la personne, le centre de la personnalité. Le cœur, dans la Bible, c'est le QG de la personne. C'est le siège des émotions, c'est le siège des sentiments, mais c'est aussi le siège des pensées, le siège de la volonté. Et ainsi, la pureté du cœur, bibliquement parlant, c'est la pureté de la personne tout entière. Pas seulement la pureté de ses sentiments ou de ses émotions, mais la pureté de sa personne tout entière. On peut mettre la diapo suivante. Si le cœur dans la Bible est tout ce que nous venons de dire, c'est aussi quelque chose de plus sombre, parce que c'est aussi le siège du péché. Le prophète Jérémie, au chapitre 17, verset 9, l'avait bien compris quand il affirme que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et qu'il est incurable. Une autre traduction dit qu'il est méchant. Oui, depuis la chute, depuis le jardin d'Éden et depuis la désobéissance d'Adam et Ève, le cœur humain est pécheur. Il est enclin au mal. Et c'est du cœur de l'homme, que viennent ses pensées mauvaises, ses paroles mauvaises, ses actions mauvaises. Une des tragédies de la pensée moderne, pour ce que j'en comprends, est de croire que les problèmes de l'être humain viennent essentiellement de son environnement dégradé ou de son manque d'éducation. Et que pour changer l'être humain vers le meilleur, il suffit de changer ses conditions de vie. C'est une erreur tragique de diagnostic qui s'appuie sur la compréhension que l'homme avec un grand H est fondamentalement bon, qu'au fond de lui-même il est bon, que dans son cœur il est bon. La Bible nous dit que l'homme est fondamentalement pécheur. Son cœur est tortueux par-dessus tout. Bien sûr, les questions de l'environnement et de l'éducation sont importantes. Et il y a tellement à faire dans ce domaine pour améliorer la vie. Mais le problème numéro un de l'être humain, celui qui est à la base de tous les autres, c'est son cœur. Son cœur pécheur. Pas son environnement dégradé, pas son manque d'éducation qui ne sont finalement que les conséquences de son cœur pécheur, méchant, égoïste, orgueilleux, sans Dieu. N'oublions pas que quand Adam et Ève ont péché, désobéi à Dieu, ils étaient dans un environnement parfait. Ils étaient dans le paradis. Non, le problème numéro un de l'être humain, c'est son cœur, enclin au mal, son cœur tortueux par-dessus tout. Diapo suivante. Et c'est parce que le cœur du problème est le cœur de l'homme que Jésus va souvent parler du cœur dans les évangiles. Et on pourrait dire que l'évangile de Jésus-Christ concerne avant toute autre chose le cœur, notre cœur. Le cœur de l'homme. Et comme nous allons le voir, il y a aussi un lien direct entre ce que Jésus dit sur le cœur humain et le contexte de l'époque, les responsables religieux de son temps qui se focalisaient sur la forme plutôt que sur le fond. Notons avant de parler de ce contexte-là, que si Jésus parle beaucoup du cœur et de la pureté du cœur, toutes ces choses se trouvent déjà dans l'Ancien Testament. Je ne prends qu'un seul exemple sur la diapo suivante, celui du psaume 24, versets 3 à 5, où le psalmiste pose la question de qui peut se présenter devant Dieu. Autrement dit, de qui peut voir Dieu. Et voilà ce qu'il dit. « Qui montera la montagne de l'Éternel ?» Qui a les capacités de le faire? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Oui, déjà dans l'Ancien Testament, ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. En se focalisant sur le cœur, Jésus remonte donc à la racine du mal. Pour lui, tout part du cœur. Toutes les impuretés d'ordre physique viennent de l'impureté du cœur. À l'inverse de ce qu'enseignaient les scribes et les pharisiens de son époque, l'impureté n'est pas dans ce qu'on touche, elle n'est pas dans ce qu'on met dans la bouche, mais elle est bien dans le cœur. C'est le cœur qui contamine tout le reste, et pas l'inverse. Et c'est ainsi que Jésus dénonce l'attitude des scribes et des pharisiens à plusieurs reprises sur ce sujet. On va mettre quelques textes à l'écran. Tout d'abord Matthieu 23, versets 25 et 26. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos sols et de vos désirs incontrôlés. Pharisien aveugle, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette. Alors l'extérieur sera pur. » Matthieu 15, versets 10, 11 et puis 17 à 20. Jésus appela à lui la foule et lui dit « Écoutez, comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui rend l'homme impur. Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté à l'écart? Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » Et enfin, Matthieu 12, verset 34, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Nous le savons, dans la loi de Moïse, il y avait un fort accent qui était mis sur le besoin de purification pour s'approcher de Dieu. Une purification extérieure qui devait préparer le terrain à la purification du cœur. Mais cette purification extérieure était devenue une fin en soi. Et c'est contre cela que Jésus s'indigne dans les textes que nous avons lus. Parce que l'important n'est pas dans la forme. L'important, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est le fond, c'est l'intérieur. L'important, ce n'est pas que les mains soient propres. L'important, c'est que le cœur soit pur devant Dieu. Diapo suivante. Merci. Mais comment le cœur devient-il pur? Comment purifier son cœur? C'est la grande question qui importe vraiment et que nous devons aborder maintenant. On pourrait dire ici, en simplifiant un peu, qu'il y a deux grandes écoles pour répondre à cette question. Il y a premièrement celles et ceux qui pensent que l'être humain peut y arriver par lui-même. Et ils sont nombreux sur cette terre. Toutes les religions du monde ont développé des enseignements, des cérémonies, des rites, des prières pour cela. Mais à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu, qui situe le problème dans le cœur de l'homme, nous pouvons dire que ces chemins sont tous des impasses. Tous nos efforts pour nous purifier nous-mêmes, pour purifier nos cœurs, sont voués à l'échec. Comment est-ce que ce qui est impur pourrait-il s'auto-nettoyer? Malgré tous les efforts que l'être humain peut faire pour purifier lui-même son cœur, à la fin de sa vie, au jour du jugement dernier, son cœur sera aussi impur qu'au premier jour. Comment purifier son cœur? La Bible nous dit, et c'est la deuxième grande réponse que nous pouvons apporter ici. La Bible nous dit que seul le sang de Christ peut nous purifier de nos péchés, de tous nos péchés. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait annoncé par le prophète Ézéchiel cette œuvre merveilleuse que le Christ allait réaliser, cette œuvre merveilleuse qu'il allait faire pour les siens, pour son peuple. On peut mettre Ézéchiel 36, versets 25 à 27. « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, dit Dieu, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Comment purifier son cœur? C'est une œuvre que seul Dieu peut faire et qu'il réalise sur la base des mérites du Christ, acquis par sa mort et par sa résurrection, et qu'il applique au cœur du croyant par le Saint-Esprit. Il vient faire sa demeure en lui. Quelques textes du Nouveau Testament qui soulignent cette action purificatrice de Dieu par Jésus et par son Esprit. On peut mettre 1 Corinthiens 6, où l'apôtre Paul a énuméré juste avant une liste de péchés, et il leur dit ceci. « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Puis acte 15, versets 8 et 9, « Et Dieu qui connaît les cœurs, » là Paul parle des païens qui ont reçu le Christ, qui se sont convertis, et il dit, « Et Dieu qui connaît leurs cœurs, les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leurs cœurs par la foi. » Et enfin, ce texte, ce beau texte, peut-être un des plus beaux ou un des plus importants de toute la parole, dans la première épître de Jean, qui dit ceci, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Christ, de Jésus son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Et voilà, je crois, en tout cas, de mon point de vue, un des versets les plus importants. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Comment notre cœur peut-il être purifié? Par le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour que nous puissions être pardonnés et purifiés de nos fautes. En effet, c'est par la foi en Jésus-Christ que Dieu fait de quelqu'un son enfant, à qui il donne son esprit, qui vient faire sa demeure en lui, en le sanctifiant, en le purifiant, en le rendant capable de marcher en nouveauté de vie, en le rendant capable de faire le choix de marcher par l'esprit plutôt que par la chair. Mais au fait, c'est quoi un cœur pur? Premièrement, c'est un cœur qui a été lavé, c'est un cœur qui a été purifié, c'est un cœur donc dont le péché a été effacé. C'est un cœur qui est libéré de la tyrannie du péché. C'est un cœur à l'image de celui du Christ, qui est à la perfection celui dont le cœur est pur. C'est quoi un cœur pur? C'est deuxièmement un cœur sans partage, un cœur sans mélange, un cœur sans alliage, un cœur sans hypocrisie, c'est-à-dire un cœur entier pour Dieu, sans zone d'ombre. C'est un cœur qui se tourne entièrement vers Dieu pour l'aimer et le servir de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée. Waouh, c'est beau, mais nous avons un sérieux problème. Lequel, notre cœur purifié par le Seigneur, ne reste jamais très longtemps entièrement pur. Nous sommes et resterons pécheurs jusqu'à notre dernier souffle. Or, seuls les cœurs purs, c'est-à-dire entièrement purs, verront Dieu. Or, un seul péché suffit à rendre le cœur impur. Oui, nous avons un problème. Malgré notre volonté, nos efforts, notre cœur redevient impur. Alors que faire? C'est ici qu'il faut parler premièrement de la part qui nous incombe. La grâce de Dieu qui nous sauve, la grâce de Dieu qui nous purifie, ne doit pas être passive. Dieu désire que nous coopérions, que nous participions activement à notre sanctification. Ainsi, après avoir reçu la grâce de Dieu qui le pardonne et le purifie, l'enfant de Dieu doit se préserver. Il doit veiller sur son cœur et régulièrement venir et revenir à Dieu pour qu'il purifie son cœur à chaque fois que cela est nécessaire. Oui, comme nous le lisons dans Proverbe 4, verset 23, nous devons veiller soigneusement sur notre cœur. Une traduction plus ancienne disait « le garder plus que toute autre chose ». Car il est à la source de tout ce qui fait notre vie. Oui, comme le dit l'apôtre Paul dans Hébreux 12, verset 14, nous devons rechercher la sanctification. La Bible du Semeur traduit « cultiver la sainteté ». Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors oui, il y a une part qui nous incombe, c'est celle de veiller sur notre cœur. Et quand nous chutons, c'est malheureusement incontournable, quand nous chutons, nous trouvons toujours auprès de Dieu, par la repentance, le pardon et la purification des péchés. Comme le dit si bien ce verset d'1 Jean 1, verset 9, que je lis maintenant dans la traduction du Semeur. « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Non, l'enfant de Dieu ne peut pas se purifier lui-même. Mais il trouve toujours par la repentance la grâce de Dieu qui le pardonne, la grâce de Dieu qui le purifie, la grâce de Dieu qui le relève. Pourquoi ? Parce que Dieu est fidèle et juste. Il reste un cas de figure que j'aimerais évoquer. Que se passerait-il si je mourais avec une faute que je n'ai pas confessée ? Que se passerait-il si je mourais sans avoir eu le temps de confesser quelque chose? Si la question est pertinente, sa formulation peut nous induire en erreur. En effet, notre question posée ainsi laisse entendre que mon salut tient finalement à l'efficacité de ma vigilance, à l'efficacité de mes efforts. Bref, à mes mérites. Et si j'ai été fidèle jusqu'au bout, alors je recevrai la récompense. Il me semble que ce n'est pas le cas. Enfin, j'en suis même persuadé que ce n'est pas sur la base de nos efforts et de nos mérites. Ce qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien dès le départ. C'est la grâce de Dieu et la grâce seule qui est plus grande que la faute que nous aurons peut-être oublié de confesser. Beaucoup de paroles de l'Écriture nous sont données pour nous donner confiance dans la grâce de Dieu, pour nous rassurer, pour nous rappeler que le garant de notre salut, c'est Dieu. Ce n'est pas nous avec nos efforts. C'est Dieu qui s'est engagé à nous mener à bon port. Ainsi, nous pouvons croire, et Alain nous l'a déjà rappelé avec les paroles de Jésus dans Jean 10, que nul ne pourra nous ravir de la main de notre Père. Nous pouvons croire avec les paroles de l'apôtre Paul à la fin de Romains 8, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous pouvons croire avec les paroles du même apôtre Paul au début de sa lettre aux Philippiens que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre, l'œuvre du salut, la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Oui, par la foi, nous pouvons nous reposer dans l'assurance de voir Dieu, si nous sommes son enfant, car c'est lui-même qui s'y est engagé. Et ainsi, l'apôtre Paul écrit ces merveilleux versets dans sa première épître, au chapitre 3. « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, c'est-à-dire lorsque Jésus reviendra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, c'est-à-dire le Seigneur, est pur. » Oui, cette espérance, c'est une espérance qui nous purifie. C'est-à-dire qu'elle nous conduit à vivre jour après jour dans la pureté. Diapo suivante. Quelques mots sur la promesse de notre béatitude, car ils verront Dieu, avant de conclure. Y a-t-il des choses que vous rêvez de voir sur cette terre? Ah, à l'heure des médias, des réseaux sociaux, il y a tellement de choses magnifiques qui donnent envie. Il y a tellement de merveilles naturelles, ou alors construites par la main de l'homme. Qu'est-ce qui vous fait vibrer et que vous auriez absolument envie de voir avant de mourir? Les pyramides de Gizeh, la Grande Muraille de Chine, le Machu Picchu, la grande barrière de corail, le grand canyon d'Arizona, aller pour quelques privilégiés, voir la Terre depuis la station spatiale internationale, voir toutes ces merveilles depuis là-haut. Il y aurait tellement d'autres choses à mettre dans cette liste. Et qu'en est-il de voir Dieu? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que c'est aussi un de vos désirs? En y réfléchissant un peu, parce que j'ai dû constater que finalement, ça ne faisait peut-être pas partie de ma liste spontanément, je crois qu'il n'y a rien de plus incroyable, si on y réfléchit vraiment. Voir Dieu, vous avez déjà réfléchi deux instants, quelques secondes à cela. Voir le Dieu infini, éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le Créateur de toutes choses, le voir face à face. Quelle pensée incroyable, quelle pensée, quelle perspective incroyable et glorieuse. Dieu, dit Paul à Timothée, habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ne peut voir. Ce passage, avec quelques autres dans l'Écriture, affirme qu'on ne peut pas voir Dieu. Et c'est vrai. C'est vrai dans notre condition de pécheur. C'est vrai parce que notre cœur est impur. Nous ne pouvons pas voir Dieu et vivre dans notre condition pécheresse. On remet la diapo suivante, s'il te plaît. Mais quand Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée en chacun de ses enfants, quand Jésus reviendra, nous l'avons lu dans ce texte d'1 Jean 3, nous le verrons parce que nous serons rendus semblables à lui. Notre cœur sera entièrement pur. Nous serons semblables à lui. Et nous le verrons. Parce que notre cœur sera pur pour l'éternité. Chers amis, quel est votre positionnement face à tout ce que je viens de vous partager? Est-ce que vous désirez voir Dieu? Est-ce que la question de la pureté de votre cœur fait l'objet de votre vigilance? Est-ce que Dieu a commencé en vous cette bonne œuvre du salut? Ce qu'il a commencé en vous, cette œuvre de transformation qu'il achèvera au jour de Jésus-Christ, cette œuvre de purification. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que chacun de nous, là, maintenant, tout de suite, peut en cet instant venir à Dieu par Jésus pour qu'il pardonne ses péchés et pour qu'il purifie son cœur. Venir à Dieu avec ces paroles de David au psaume 51, cette belle prière de David, et en particulier le verset 12. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. » Là, on est dans un contexte qui n'est pas le nôtre. « Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes fautes. » Quelle belle prière. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Et puis le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mes amis, je ne sais pas si vous avez déjà prié cette prière. Je crois que c'est la plus importante de toutes. On peut la formuler autrement, mais ce qu'elle demande, c'est ce qu'il y a de plus important. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quelle merveilleuse prière. Une prière que Dieu honorera. Pourquoi ? Parce qu'il est fidèle et juste. Nous l'avons lu. Et il pardonne et purifie toujours le pécheur repentant. C'est pourquoi par la foi nous pouvons dire avec les paroles du cantique, « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. » Ce n'est pas de l'arrogance de le dire. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est simplement saisir par la foi ce que Dieu nous promet dans sa parole. Oui, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est vraiment là la raison suprême de leur bonheur. Amen.